En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En la sublime communauté la Sangha.
En la sublime communauté la Sangha.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Puis-je réaliser l'éveil?
Puis-je réaliser l'éveil?
Pour accomplir le bien des êtres.
Pour accomplir le bien des êtres.
En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En la sublime communauté la Sangha.
En la sublime communauté la Sangha.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Puis-je réaliser l'éveil.
Puis-je réaliser l'éveil.
Pour accomplir le bien des êtres.
Pour accomplir le bien des êtres.
En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'éveillé sublime le Bouddha.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En l'enseignement sublime le Dharma.
En la sublime communauté la Sangha.
En la sublime communauté la Sangha.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Jusqu'à l'éveil je prends refuge.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Par ma pratique du don et des autres vertus.
Puis-je réaliser l'éveil.
Puis-je réaliser l'éveil.
Pour accomplir le bien des êtres.
Pour accomplir le bien des êtres.
Voilà, et puis on va faire une petite séance de méditation. Alors pour les personnes qui ne méditent pas depuis longtemps ou qui découvrent, je vais rappeler les instructions pour la méditation de Shiné. Shiné, c'est le... En tibétain, ça veut dire le calme mental. Donc c'est la méditation qui est propre à toutes les... Une méditation qui est propre à toutes les traditions bouddhistes. Calme mental, ça signifie que ça ne signifie pas qu'il n'y a plus rien qui se passe dans l'esprit. Ça ne veut pas dire encéphalogramme plat. Ça veut dire une stabilité, qu'il y ait avènement ou non-avènement, qu'il y ait pensée ou absence de pensée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a des coussins pour vous asseoir. J'étais en train de réexpliquer les bases de la méditation. Voilà, calme mental, ça signifie une stabilité. Qu'il y ait mouvement ou absence de mouvement, qu'il y ait pensée ou absence de pensée. Quand on dit calme mental, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Ça veut dire qu'on va trouver, on va essayer de découvrir cet endroit qui n'est pas affecté par tout ce qui se passe. Et le point, on va s'aider du corps. C'est-à-dire la posture en méditation, ça peut nous aider à favoriser cette stabilité, parce que le corps et l'esprit sont très liés. Et donc on préconise donc de s'asseoir sur un coussin ou sur une chaise, et de le point le plus important, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Donc on imagine qu'on pousse le plafond avec le sommet de la tête pour redresser la colonne vertébrale. Quand on est assis sur le coussin ou sur la chaise, on veille à s'asseoir sur le devant du coussin ou sur le devant de la chaise, de façon à ce que le bassin puisse facilement basculer. Pour les gens qui ont besoin d'une légère cambrure. Et quand on dit colonne vertébrale bien droite, ça veut... La colonne vertébrale, elle a une forme, elle forme un S naturellement. Elle n'est pas droite comme une flèche. Simplement, on doit sentir que si les vertèbres sont correctement empilées, ça tient tout seul. Il n'y a pas besoin de faire un effort particulier. On laisse faire la gravité. Et on doit sentir que quand on est bien correctement positionné, ça penche ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur les côtés. Il y a une tonicité qui vient de la colonne vertébrale, et ensuite, tranquillement, on va prendre son temps pour pour faire un petit scanner corporel et vérifier toutes les zones de tension qu'on peut sentir dans le corps. On laisse les muscles se relâcher, notamment souvent au niveau des épaules, de la nuque, des muscles du visage. Alors on peut poser les mains sur les genoux. Et tranquillement, on laisse les muscles se détendre progressivement. Il y a beaucoup de questions de relaxation du corps en méditation. Détente de l'esprit, détente du corps. La détente du corps participe de la détente de l'esprit. Dans notre tradition, on médite les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'on va rester en contact avec tout ce qui nous entoure, y compris par la vue. On ne se coupe pas de quoi que ce soit. On garde les yeux ouverts devant soi. On dit dans le regard doit être dans le prolongement de l'arête du nez. Ou à 45 degrés si vous préférez. Et on n'est pas dans la fonction de regarder. Le regard est juste posé devant soi. On voit ce qui se passe, mais on ne regarde pas particulièrement. On ne fixe pas quelque chose. Le regard est simplement posé devant soi, très détendu, très souple. Aucune tension, aucune fixité dans le regard. Très naturel. Et progressivement, on va se laisser inspirer aussi par notre posture. Par la dignité qui s'en dégage. Stable. Comme une montagne. Inébranlable. Et en même temps, on reste très naturel. Il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux. On fait rien de particulier, on est simplement assis là tranquillement. Et puis on va porter une partie de notre attention sur la respiration. Une partie de notre attention sur le va-et-vient du souffle, alors soit au niveau du bas-ventre, à l'endroit où on sent le ventre qui se soulève et qui s'affaisse, un peu en dessous du nombril, soit si on préfère au niveau des narines. À l'endroit où on sent l'air qui rentre et qui sort par l'extrémité de nos narines. Alors on est conscient de l'inspire, conscient de l'expire. Juste une légère attention, c'est-à-dire on n'est pas concentré dessus, on est conscient de tout ce qui se passe, mais il y a juste cette légère attention, juste de quoi ne pas oublier. Ce va-et-vient du souffle. Sans modifier le rythme respiratoire. Et tout en gardant ce support de méditation à l'esprit, on va élargir notre champ de conscience à ce qui se passe autour de nous. Conscience d'abord de l'environnement proche, de cette pièce, de ce qui s'y passe, de l'ambiance, de la température de la pièce. Il n'y a rien de compliqué, on fait quelque chose de très simple, comme un enfant, on goûte à l'instant tel qu'il se présente. Sans a priori, on goûte à cet instant, avec tout ce qu'il compose. On recherche rien de particulier, on reste très simple. Et puis quand on se sent bien, on peut élargir notre champ de conscience à ce qu'on peut entendre dehors, les bruits de la circulation, le vent, les sons plus lointains. Et on garde toujours notre attention sur la respiration. Toujours cette conscience de l'inspire, de l'expire. On ne cherche pas à calmer quoi que ce soit. S'il y a des commentaires qui s'élèvent dans l'esprit, des pensées, on est conscient de ces commentaires qui peuvent s'élever éventuellement. S'il y a peu de pensées, on est conscient qu'il y a peu de pensées. S'il y a beaucoup de pensées, on est conscient qu'il y a beaucoup de pensées. On fait rien avec ça, on est simplement spectateur, on est simplement témoin de ça. Mais on se laisse pas embarquer par les préoccupations qui peuvent naître dans l'esprit, on reste posé sur notre support de méditation, la respiration. Et au bout d'un moment, si on constate que on est parti ailleurs, qu'on n'était plus là, on s'était laissé embarquer par une pensée ou une préoccupation relative à ce qui nous est arrivé ou relative à ce qui va se passer, dès qu'on s'en rend compte, on était parti ailleurs, c'est qu'on est de retour. C'est qu'à ce moment-là, on est à nouveau présent. Donc il n'y a rien à faire de particulier. Simplement, on s'autorise à ne pas revenir sur la pensée ou la préoccupation. On reste dans cet état de reconnaissance. Cette prise de conscience qu'on est à nouveau là. Et à nouveau, on s'enracine dans le moment présent. On repose notre attention sur la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors je vous transmets le bonjour de Lama Tsultri et Shirab. Voilà. Non, non, il est à Shirab, le moine aveugle.
D'accord.
Voilà. Alors, non, non, il est toujours à Paris. En fait, je l'ai vu cet après-midi, donc il m'a dit tu as Manon, tu leur transmets tout le bonjour. Voilà. Alors, cette année, je vous avais dit que je voulais vous proposer d'enseigner à partir de l'entraînement de l'esprit. Donc, je vais m'appuyer sur cet ouvrage qui a été commenté par Ringu Rinpoche, voilà, sur l'entraînement de l'esprit. Donc, Ringu Rinpoche, en fait, c'est un maître tibétain qui est l'autorité spirituelle de Bodhicharya France. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, je situe un petit peu rapidement. Donc Bodhicharya France, c'est un centre bouddhiste. D'abord, c'est une association qui a 20 ans, et puis il y a 10 ans, on a acheté un centre bouddhiste qui est dans les Vosges. Donc c'est le centre dans lequel je vis avec la Matsultri, avec d'autres moines. Donc la vocation du centre, eh ben, c'est de permettre de proposer un lieu aux gens pour que les gens puissent venir faire un petit séjour, soit un petit séjour de ressourcement, soit des retraites individuelles. Donc on est ouvert toute l'année. Les gens viennent, réservent une chambre, nous on s'occupe des repas, on propose des méditations quotidiennes et puis chacun fait son petit programme, quoi. Si les gens ont besoin de rencontrer Lama, d'instruction, bah voilà, y a des personnes sur place. Et puis le week-end, on propose des stages qui s'adressent à tout niveau, voilà, à la fois à des gens qui découvrent, des gens qui souhaitent aller plus loin dans leur pratique. Et puis autour de ce centre, il y a ce qu'on appelle les Chöling. Les Chöling, donc la traduction c'est jardin du Dharma, c'est des petits endroits où on se réunit une fois par mois. Donc à Meudon, à Strasbourg, à Colmar, donc c'est surtout dans le Grand Est, mais voilà, il y a ce lieu à Meudon et puis d'autres. On se réunit une fois par mois, on fait un temps de méditation, là comme vous avez vu, et puis un temps où on discute d'un point de l'enseignement bouddhiste. Voilà, c'est les petites antennes de Bodhicharya. Et l'autorité spirituelle donc de Bodhicharya, c'est un maître tibétain qui s'appelle Ringu Rinpoche, donc qui est tibétain, qui se déplace beaucoup en Occident pour enseigner. Et la direction spirituelle de Bodhicharya, c'est Lama Tsultrim. Voilà, c'est l'occasion d'avoir rencontré. Voilà, pour la petite présentation, j'oublie rien. Voilà, et donc on va parler de l'entraînement de l'esprit. Donc en tibétain, c'est l'entraînement de l'esprit, c'est Lojong. Lojong, c'est un incontournable. Voilà, c'est un enseignement classique, un incontournable dans le bouddhisme du grand véhicule. Donc je vais me baser donc sur ce commentaire de Ringu Rinpoche. Alors déjà, juste pour situer, le Bouddha a donné énormément d'enseignements, et dans ces enseignements, on a fait des catégories. C'est pas lui qui a fait ces catégories-là, mais après, suite à son enseignement, on a fait surtout deux catégories qu'on va appeler des courants, le grand véhicule et le petit véhicule. Et l'entraînement de l'esprit appartient à ce qu'on appelle le grand véhicule, Mahayana. Yana, c'est véhicule, Maha, grand. On va parler de petit véhicule, même si ce n'est pas une traduction qui est très, voilà, qui pourrait être un peu considérée comme inférieure, mais ce n'est pas du tout le propos. Mais on va parler de petit véhicule, Ina Yana. Un véhicule, c'est un moyen de transport qui va nous permettre de partir de là et nous emmener jusqu'à l'éveil. Alors, dans le bouddhisme, on va avoir plein de véhicules. On va avoir des bicyclettes, on va avoir des motos, on va avoir des voitures, on va avoir des avions, et puis on va même nous proposer des avions supersoniques, des véhicules hyper puissants, super rapides. Mais évidemment, avant de pouvoir piloter ce genre de truc, il faut bien avoir maîtrisé les véhicules précédents. On ne va pas nous mettre aux commandes d'un hélicoptère si on n'est pas capable de le piloter. C'est un peu cette idée de, voilà, véhicule, c'est ça que ça veut dire. C'est le moyen de transport, c'est pas le chemin, véhicule. Véhicule, c'est ce qu'on utilise. Et quand on parle de véhicule, ça veut pas dire qu'on va en utiliser un. Il y a le matin, on va peut-être se sentir plus inayana, on va peut-être plus avoir envie d'y aller tranquille, en bicyclette. Le matin, je me réveille, je suis un peu dans le coltard. Bicyclette. Et puis l'après-midi, on s'en forme, on va changer de véhicule. Voilà, on va trouver dans les enseignements du Bouddha quelque chose qui nous inspire plus, qui est plus puissant, et on se sentira plus grand véhicule. Il n'y a pas une idée de j'appartiens au petit véhicule, j'appartiens au grand véhicule. Il n'y a pas de ça. Mais c'est juste, on fait des catégories pour bien comprendre que ces véhicules-là, en fait, ce qui va faire la différence, c'est l'aspiration. Quand on parle de grand véhicule, le petit véhicule, ce qui fait la différence, c'est l'aspiration qu'il y a derrière le pratiquant, qu'il y a derrière la démarche. Mahayana, ça veut dire... Maha, ça veut dire grand. Ça veut dire big, énorme, illimité. Ça englobe tout. Ça n'a pas de limite. Le slogan du pratiquant du grand véhicule, c'est « Puissais-je, moi, amener tous les êtres au bonheur ?» au bonheur suprême, et puis faire en sorte qu'ils soient tous libres de la souffrance. On souhaite, notre aspiration, c'est de souhaiter à tous le bonheur suprême. C'est une aspiration. Donc en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut souhaiter à l'autre d'être heureux. On souhaite tous le bonheur pour nous-mêmes, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Vous se dire non, moi je peux pas souhaiter le bonheur de l'autre parce que voilà, j'ai un problème à la jambe ou j'ai une maladie ou j'ai quelque chose. Ça, il n'y a pas de besoin d'une capacité particulière pour souhaiter le bonheur de l'autre. C'est à la portée de tous. Là, je parle vraiment de l'aspiration. Et c'est dans le grand véhicule, c'est cet état d'esprit qu'on va développer, c'est ce slogan, le pratiquant du grand véhicule qu'on appelle le Bodhisattva. Son aspiration, c'est « Puissais-je amener tous les êtres au bonheur suprême ? Je souhaite être capable de faire en sorte que de guider tous les êtres vers le bonheur suprême. Tous, sans exception. Mais quand on dit tous, c'est tous. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement mes proches, mon entourage, mes voisins. Ça va être ma ville, mais pas seulement ma ville, ça va pas être seulement les Français, ça va être aussi les Italiens, les Japonais, les Mexicains. Ça va pas être seulement les démunis, les affamés. Voilà, les parias, ça, on va englober aussi les puissants, les millionnaires, Donald Trump, les parrains de la mafia, les gens qu'on n'aime pas. On leur souhaite un jour d'être heureux. On leur souhaite un jour, eux aussi, de trouver ce bonheur. Puis ça va pas être seulement les êtres humains, on peut être aussi, ça va être, on peut englober là-dedans tous les êtres dont on pense qu'ils ont une sensibilité, dont on pense qu'eux aussi souhaitent le bonheur, ils souhaitent pas souffrir. Ça peut être les animaux, ça peut être les insectes. Si on croit aux esprits, ça peut être les esprits. Ça peut être les mauvais esprits, les bons esprits. Si on croit aux dieux, allons-y. Les dieux, les démons, on inclut tout là-dedans. L'idée du Mahayana, c'est qu'il n'y a aucune limite à cette aspiration. Alors bien sûr, voilà, on entend ça, on se dit... Oh. J'aime bien votre philosophie, c'est bien, c'est poétique, j'adhère, mais c'est... voilà, enfin, comment moi, avec mes problèmes... déjà que j'ai du mal avec mes problèmes, alors que... Et c'est vrai que le Bouddha, il avait énormément de disciples, de tout sexe, de tous âges, de tout niveau social. Il avait énormément de disciples et énormément de disciples qui n'entendaient pas ce discours-là. Ça passait pas tout simplement parce que on peut se retrouver dans cette. Écoutez, moi, je veux juste déjà me sortir de ce merdier et puis ensuite on verra. Déjà, je veux apprendre à moi me sortir de mes problèmes, et puis mais les autres m'en parlaient pas. Pour l'instant, c'est pas possible. Et le Bouddha enseignait énormément d'enseignements par rapport à ça, par rapport à cette attitude-là, aucun problème. On commence par soi. D'abord, on prend soin de soi, et puis on verra plus tard. Et ça n'exclut pas qu'ensuite on puisse se consacrer aux autres. Mais ces enseignements-là qui... on va les appeler les enseignements du Hinayana, c'est-à-dire petit véhicule dans le sens, c'est un véhicule qui est restreint. Restreint à quoi ? À sa libération. Libération personnelle. D'abord, je m'occupe de moi. Ensuite, on verra. C'est pour ça qu'on a fait des catégories, mais c'est pas le Bouddha qui a fait ces catégories. L'idée du grand véhicule, c'est que, en fait, on va pouvoir faire une pierre deux coups. Si on est capable d'entendre ça, si on est capable d'adopter même en faisant un peu semblant, cette attitude-là, on se force un peu, c'est un peu artificiel au début, je me prends pour quelqu'un qui est capable de, je peux le faire, on va dire que l'aspiration fait le fruit. On aura le fruit de nos aspirations. Et donc du coup, ça va être très puissant du point de vue bouddhiste, parce que quand on a l'esprit d'éveil, c'est-à-dire, l'esprit d'éveil, c'est ça, c'est cette attitude-là où on se met à penser comme un Bouddha. On aura le fruit de nos aspirations. C'est déjà fait. Donc ça va aller très vite. L'idée, c'est d'arriver à se déformater. C'est une méthode de coaching, en fait. L'entraînement de l'esprit, vous verrez, c'est... On a un formatage qui fait que on se conçoit comme quelqu'un qui est limité, qui est empêtré dans ses problèmes, qui a du mal à faire face, et donc, du coup, qui n'a pas les capacités d'aller plus loin. L'idée, c'est de se déformater de ça et d'ajouter par-dessus un nouveau programme. Je suis capable de, je peux le faire. Je ne suis pas limité. Je suis par nature Bouddha. C'est-à-dire, Bouddha, ce qu'on appelle un Bouddha, traduction de Bouddha, c'est éveillé. Ce qu'on appelle un Bouddha, c'est quelqu'un qui non seulement s'est libéré de la souffrance, mais en plus de cette libération, il y a une compréhension. Et donc, il a des capacités d'aider les autres. Pas de faire le chemin à leur place. C'est pas ça un Bouddha. Un Bouddha, c'est pas un super-héros. C'est pas quelqu'un qui peut faire le chemin à leur place. Voilà, je te fais une petite bénédiction et puis ça y est, t'es purifié. C'est pas comme ça. Mais simplement, si on comprend les mécanismes de la souffrance, si on arrive à s'en libérer, ben on est capable d'inspirer les autres. On est capable de guider les autres. De devenir une source de... Oui, d'inspiration pour les autres. Et c'est ça le but du grand véhicule. Notre aspiration, c'est ça. C'est pas seulement la libération individuelle, c'est l'état de Bouddha. C'est-à-dire une libération plus des capacités d'aider les autres. Et pour ça, il faut avoir la conviction que notre nature est illimitée. On a un potentiel qui est illimité. Il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire renforcer cette espèce de formatage qu'on a, qu'on ne peut pas. Et tout l'entraînement de l'esprit, ça marche comme une méthode de coaching, c'est-à-dire un coach à l'américaine qui veut coacher un businessman. Le businessman lui dit, moi je veux réussir mon entreprise. Le coach, son but, c'est de lui faire voir grand. Tu veux réussir, il faut voir, mais pas des milliers, il faut voir des millions, il faut voir des milliards. Il faut que votre rêve soit à la hauteur. Il faut voir une vision illimitée. Vous pouvez le faire et puis en plus... voyez, très grand. Je vais devenir le meilleur. Et on visualise notre rêve, on le voit grand, et du coup, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Il y a des gens qui réussissent comme ça. On voit très grand. On voit qu'on peut se hisser dans la cour des grands, entre guillemets. Là, je parle en termes businessman, quoi. Notre propos est différent, mais ça va marcher pareil. L'entraînement de l'esprit... c'est de passer à je suis empêtré un projet, j'essaie juste de m'en sortir à je peux le faire. Il n'y a pas de limite à mon action. Et je vais pouvoir aller très loin. Je vais pouvoir englober tout. C'est un entraînement. C'est un entraînement et du point de vue bouddhiste, en fait, c'est un entraînement qui va porter ses fruits, pas parce qu'on se raconte une histoire. Ça va porter ses fruits parce que nous sommes en essence de cette nature illimitée. Si ça n'était pas le cas, ça ne marcherait pas. Mais du point de vue bouddhiste, l'erreur, c'est de se considérer comme limité. C'est ça notre grande erreur, le gros malentendu. C'est cette croyance que nous sommes limités dans la capacité et qui est fortement ancrée et qui est erronée. Et c'est pour ça que c'est en travaillant là-dessus que ça va marcher, parce que du point de vue bouddhiste, le but de l'ojong, le but de l'entraînement de l'esprit, ça va pas être de nous sentir mieux, d'avoir un esprit plus flexible, d'être plus relax. Ça va pas être simplement d'améliorer nos conditions de vie, d'être un meilleur médecin, un meilleur manager, ou d'acquérir des compétences, un meilleur sportif, ou avoir une meilleure mémoire, des choses comme ça. Si tout ça arrive, d'être plus charismatique, de rencontrer l'âme sœur, des choses comme ça, si tout ça arrive, c'est bonus. Ça peut arriver. Mais c'est considéré sur le chemin comme bonus. Ça peut ne pas arriver. C'est bonus, le but de l'entraînement de l'esprit, c'est de réaliser l'éveil. Et réaliser l'éveil, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, de réaliser ce que nous sommes, de réaliser cette nature fondamentale qui a toujours été là, qui sera toujours là, et qui est là sous notre nez, mais on ne le voit pas. Mais l'entraînement de l'esprit, c'est de nous faire réaliser ça. Et on réalisera du coup cette nature qui est limitée. Et donc, la méthode de Lojong, c'est l'aspiration fait le fruit. Si je me mets à penser comme un Bouddha, j'accélère le processus. Un Bouddha sait qu'il est de nature illimitée, donc il peut penser comme ça. J'amènerai au bonheur tous les êtres. Je souhaite à tous le bonheur suprême. Si on se met dans cet état d'esprit-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. C'est pour ça qu'on parle de bodhicitta, l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil parce que c'est l'esprit d'un Bouddha. On se met à penser comme un Bouddha, l'esprit d'éveil. Et forcément, si on a l'esprit d'éveil, notre attitude va en découler. On dit les paroles, les actes sont le prolongement de la pensée. Vous pensez comme un Bouddha, vous aurez à l'instant, vous pensez comme un Bouddha, l'attitude d'un Bouddha. Des paroles qui vont découler d'un état d'esprit, qui sont en adéquation avec ça, des paroles, des actes, etc. Voilà, donc on plante déjà des petites graines. Et finalement, peu importe quand est-ce qu'on aura cette réalisation-là. Si on a cette pensée, cet état d'esprit-là, on a cette réalisation-là dans l'instant. Ça dure une fraction de seconde, on est Bouddha une fraction de seconde. Ça dure une minute, on est Bouddha une minute. C'est un peu ça l'idée. Donc, l'entraînement d'esprit, c'est un texte qui est très court. Donc, c'est ça l'avantage. C'est un condensé. Et dans ce texte, on considère que c'est un incontournable parce qu'on dit qu'il contient l'essence de l'enseignement de Bouddha, que tout est inclus. Que si vous comprenez la logique de cet enseignement, vous pouvez laisser tomber, quelque part, toutes les autres méthodes. Il n'y a pas besoin d'avoir... Voilà. C'est un enseignement qui suffit à lui-même. Bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir de suivre d'autres méthodes. Mais si on voulait s'en tenir qu'à ça, c'est un enseignement qui a la capacité de nous mener du début jusqu'à la fin du chemin. Et ce qui est chouette dans cet enseignement, c'est que c'est des conseils très pratico-pratiques. Voilà, des outils qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. C'est même pas, on peut même pas dire que c'est un enseignement qui est particulièrement bouddhiste, dans le sens où c'est une sagesse qui n'est pas particulièrement bouddhiste. Elle est universelle, cette sagesse. Vous allez pouvoir retrouver cette logique-là dans d'autres traditions spirituelles, dans d'autres recherches d'autres sagesses ancestrales. On va retrouver ce type de sagesse. L'entraînement à l'esprit, c'est très particulier parce que va y avoir deux aspects. Le premier aspect, c'est que le support de l'entraînement de l'esprit, c'est la souffrance rencontrée au quotidien. C'est ça le support de cette pratique. Le support de la pratique, c'est la contrariété, l'adversité qu'on va rencontrer dans le quotidien. Les situations adverses, les personnes qu'on n'aime pas, les conflits, les choses qu'on n'aime pas rencontrer. C'est ça qui va être le support de notre pratique. Dans le Lojong, notre contrariété va devenir le tremplin, le carburant qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous permettre d'avancer sur le chemin, de nous réaliser. C'est très particulier d'entendre ça. Il y a peu de discours dans ce sens. Dans la philosophie occidentale, considérer que la souffrance peut être utile, on entend très rarement ce genre de discours. Là, en fait, le but de l'entraînement de l'esprit, dans cette démarche-là, c'est de changer radicalement notre manière de penser, notre manière de voir, et particulièrement vis-à-vis de la souffrance. D'ordinaire, on déteste souffrir. On déteste être contrarié, on déteste les inconforts, l'insécurité, tout ce qui est susceptible de nous faire souffrir, on n'aime pas ça. Et notre réaction par rapport à ça, du fait qu'on n'aime pas ça, c'est soit de le fuir, soit se protéger, soit de détruire, de développer de l'aversion. Voilà, l'aversion. Problème, le gros problème, c'est pas tant la souffrance du point de vue bouddhiste, c'est l'aversion vis-à-vis de la souffrance, qui va nous faire accomplir des actes qui, eux, vont avoir des conséquences qui vont nous éloigner du bonheur auquel on aspire. Dans le bouddhisme, il n'y a rien de pire que la peur. Et encore pire que la peur, il n'y a rien de pire que la peur de la peur. La peur de la peur, c'est le piège. C'est le piège, c'est vraiment le piège terrible. C'est une boucle sans fin. Ça s'arrête jamais, ça s'auto-alimente. Et c'est pour ça que le premier enseignement du Bouddha, si on veut vraiment aborder l'enseignement bouddhiste, c'est de comprendre d'abord que la souffrance, c'est-à-dire la contrariété, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Dans la vie, il y a des aspects plaisants et des aspects déplaisants. On va rencontrer des situations agréables, des situations désagréables. Et le premier enseignement du Bouddha, c'est de dire « Le bonheur, il est au-delà de ça. » Si vous pensez que le bonheur, c'est d'essayer de vous aménager une vie dans laquelle vous ne serez confronté qu'au plaisir, qu'aux situations agréables, qu'au confort, qu'à la sécurité, au bout d'un moment, vous allez être déçu. La vie va simplement se charger de nous mettre au pied du mur et de voir qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas un contrôle, on a un contrôle qui est minime, qui est totalement limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en préoccuper. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tout mettre en œuvre pour s'aménager une vie la plus viable possible, avec ce qu'on a en tenant compte de nos besoins en termes de sécurité, confort, etc. Besoins affectifs, etc. Mais la démarche du Bouddha, c'est de nous dire que c'est pas ça le bonheur ultime auquel on aspire. Ça, c'est comment s'améliorer sa vie, améliorer son existence. Mais si on espère aboutir à un état de bonheur suprême, où on envisage que le bonheur suprême, ça sera un état de plaisir permanent, de confort permanent, où rien ne vient ne contrarier notre paix, tranquillité, on se fourre le doigt dans l'œil, on est en train de se leurrer, on se raconte une histoire. Et il nous demande, avant d'aborder n'importe quel enseignement, d'être clair avec ça, c'est-à-dire même de faire preuve d'imagination. Qu'est-ce qu'on attend du bonheur ? Est-ce que on s'imagine, alors même en faisant preuve d'imagination, si j'avais tout ce qu'un homme peut espérer, est-ce que je serais heureux ? Qu'est-ce que j'attends du bonheur ? Une fois que j'ai tout. Alors voilà, allons-y quoi. Si j'ai tout, si je vis avec la femme ou l'homme de ma vie, avec la plus belle des voitures, avec la plus belle des maisons, avec les enfants, avec le confort absolu, avec l'argent à foison, si j'ai plus de problèmes d'argent, etc. Est-ce que cet état est stable ? Est-ce que je peux me dire, ça y est, j'y suis arrivé ? Est-ce que ce bonheur est inconditionné ? Est-ce qu'il est intemporel ? Et on va se rendre compte, dans cette réflexion, que en tant qu'homme, on est confronté au changement, on est confronté à l'instabilité, ça fait partie de la vie. Que les choses...
L'impermanence.
Des choses là. Bon, on en a beaucoup parlé de ça, mais de comprendre que le plaisir et le déplaisir, qui qu'on soit, ce sont des événements qui sont transitoires. Que le bonheur suprême auquel on aspire ne peut pas se situer dans quelque chose qui est conditionné, qui est transitoire. Ça apparaît, ça disparaît. Une fois on est riche, mais même si on est l'homme le plus riche du monde, rien ne nous garantit que le lendemain, on puisse tout perdre, on puisse être ruiné. Même si on est avec l'homme de notre vie, la femme de notre vie, rien ne nous garantit qu'on ne va pas être séparé le lendemain, pour une raison X. Que il ou elle va partir, que il ou elle va tomber malade, que il ou elle va mourir, etc. Rinpoche Poche nous disait, c'est ça l'impermanence, c'est quand on la comprend bien, quand on comprend vraiment l'impermanence, c'est-à-dire le fait que tout change tout le temps, que rien n'est stable. Ça va, vous m'entendez bien là? On comprend que tout peut disparaître. Absolument, tout peut disparaître. De ce qu'on vit actuellement, tout peut disparaître en un instant. Il y a l'aspect tout peut disparaître, c'est-à-dire tout peut changer. Et en plus, cet aspect en un instant. Il suffit que quelques conditions apparaissent pour que tout s'effondre. Absolument tout. Ce qu'on a pu construire, ce qu'on a pu bâtir depuis des années, toute l'énergie qu'on a pu investir dans nos projets, il faut envisager, il faut comprendre, réaliser que voilà, tout peut s'effondrer.
En fait, tu peux ajouter quelque chose?
Oui, bien sûr.
Et en fait, ce bonheur dont vous parlez, il se trouve au-delà de tout ça.
C'est ça.
Au-delà de cet endroit où tout bouge, tout change, où tout disparaît.
Voilà, c'est ça qu'on recherche. C'est que si on recherche vraiment un bonheur, il faut vraiment se poser la question, quel type de bonheur je recherche? Pour pouvoir orienter ensuite notre recherche du bonheur de manière efficace. Est-ce que dans cette recherche de bonheur, je vais vraiment y trouver mon compte? Si je cherche à être riche, et vraiment que je mets beaucoup d'énergie, il y a de grandes chances que je puisse parvenir à être riche. Mais si on cherche le bonheur suprême, faut comprendre qu'être riche, on peut arriver à un état où on est très très riche, mais à la fois comprendre que cet état est transitoire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous garantit, même si on est immensément riche, même si on est l'homme le plus riche de la Terre, que le lendemain, tout disparaisse, on puisse être ruiné en un instant. Il n'y a rien qui nous garantit, voilà, qui nous protège de ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est un bonheur qui ne soit pas conditionné, un bonheur suprême, une paix voilà, qui ne dépend plus des circonstances. Et à partir de là, voilà, à partir de là, on va pouvoir écouter ce que a à nous dire le Bouddha. Il nous demande d'être vraiment clair sur ce qu'on recherche dans notre vie, parce que lui, c'est ça qui nous invite. C'est la promesse qui nous donne. C'est qu'il y a un bonheur, il y a une paix, ce type de paix qui existe, ce qu'on appelle le nirvana. Un bonheur qui n'est pas dépendant des circonstances. Elle existe à condition de réorienter notre manière de rechercher le bonheur. Orienter le bonheur dans la bonne direction, pas dans quelque chose qui sera susceptible de disparaître. Donc ça va être le premier point sur lequel voilà, déjà je vous invite ce mois-ci à vraiment réfléchir dans votre vie, faire la part des choses, c'est-à-dire comprendre qu'on a tous des projets, on fait des projets, on a des aspirations pour améliorer au mieux notre vie. En termes de sécurité, en termes de confort financier, etc. Mais est-ce qu'on a bien réalisé que tout en faisant ça, on a bien conscience que tout ça peut s'écrouler? C'est pas pour être pessimiste, c'est pas pour nous plomber le moral, au contraire. C'est pour nous permettre de participer à un projet, mais de manière plus détendue. De comprendre que voilà, d'intégrer cette notion-là de l'impermanence à nos projets. Ça veut pas dire il y a impermanence, donc je me lance dans aucun projet, je délègue tout, je ne participe plus à rien, je ne suis plus concerné par rien. Non, on est totalement concerné par ça. Mais est-ce que j'ai bien est-ce que dans ma recherche de bonheur, je ne cherche pas à aboutir à un bonheur illusoire, à un bonheur qui serait temporaire. Voilà, bien comprendre cette notion d'impermanence. Pour comprendre que le bonheur ne se situe pas là, ne se situe pas dans le fait de s'attacher au plaisir et de fuir le déplaisir. Parce que c'est là que l'entraînement de l'esprit se situe. Transformer notre rapport à la souffrance. Pour transformer notre rapport à la souffrance, il va falloir accepter de rentrer en contact avec cette contrariété. Et pour accepter de rentrer en contact avec cette contrariété, il va falloir accepter qu'en fait, c'est pas un châtiment quand on rencontre la contrariété, c'est pas une punition personnelle, c'est pas parce qu'on a été moins malin qu'on est puni, qu'on a mal géré. On a beaucoup de... surtout en Occident, ce rapport à la contrariété, il est bizarre. En fait, on a honte de souffrir. C'est comme si le fait de souffrir, de rencontrer la contrariété, c'est parce qu'on avait mal géré. Ça nous met en situation d'échec. Voilà. Donc on est contrarié, et en plus de ça, on rajoute le sentiment d'échec. Où est-ce que j'ai mal géré ? Du coup, on n'ose pas le montrer. Voilà, au contraire, on préfère se montrer sous son aspect, son meilleur aspect. Voilà, non, moi je gère, je souris, etc. Parce que si je montre, c'est quelque part, je renvoie l'image que j'ai mal géré, je me suis planté. Je suis un gars qui, j'ai été un peu bête, je me suis fait avoir. Et là, on est à côté de la plaque. Du point de vue bouddhiste, quand on comprend le fonctionnement des choses, on comprend que la contrariété, les situations adverses, les situations pénibles, elles font partie de la vie. C'est pas quelque chose sur lequel on a contrôlé, que tout le monde rencontre ça. Tout le monde rencontre des situations plaisantes, tout le monde rencontre des périodes de répit, de plénitude, de bonheur. Mais en même temps, on rencontre aussi des gens qu'on n'a pas envie de voir, des situations qu'on n'a pas envie de rencontrer. Ça fait partie de l'existence en tant qu'humain. Et ça, le Bouddha nous demande d'être bien clair avec ça, d'observer qu'il ne peut pas en être autrement. Ça fait partie de l'existence. Et si on arrive à voir ça, notre rapport avec la souffrance va être différent. C'est-à-dire, on sera plus en lutte par rapport à ça. C'est-à-dire, être préoccupé de se débarrasser de toute situation inconfortable, on va changer notre regard. On va accepter dans un premier temps qu'elle est là, que ça fait partie de la vie, que tout le monde rencontre ça, sans se dire voilà, je suis en situation d'échec. Non, on la vit. Le fait de faire face à cette contrariété va nous permettre de comprendre. On va goûter à la contrariété pour savoir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Elle nous apporte une information qui est très importante. Pourquoi je suis contrarié ? Qu'est-ce que me raconte cette souffrance ? Où est-ce que je me suis raconté des histoires ? Où est-ce que j'ai misé sur le mauvais cheval, sur le mauvais cheval ? C'est-à-dire, elle va nous raconter des choses sur notre façon dont on recherche le bonheur. Par exemple, quelqu'un qui s'imagine que le bonheur, c'est d'être toujours jeune et en bonne santé, un jour, on va être déçu. Si on pense que c'est ça le bonheur, d'être toujours jeune, toujours en forme, toujours en bonne santé, la vie va nous renvoyer, à un moment donné, une déception, ou à ce qu'on appelle un dukkha, contrariété. Dukkha, ça veut dire, c'est ça le terme qu'utilise le Bouddha, qu'on a traduit par souffrance, mais c'est une mauvaise traduction. Dukkha, c'est ce qui vient nous contrarier dans nos plans bonheur, dans nos plans sur la comète. Je pensais que le bonheur, c'était être tout le temps heureux, et puis j'ai lutté contre ça, j'ai dépensé de l'énergie, tout ça, et puis au bout d'un moment, je suis au pied du mur. J'y arrive plus à me maintenir, parce que je me rends bien compte que le corps, il suit pas. Le corps est vieilli, le corps est fatigué. Alors je peux toujours continuer à me porter les œillères et puis à m'accrocher, à être en lutte contre ça, mais au bout du compte, ce que le Bouddha nous enseigne, c'est que c'est pas le fait d'être de vieillir, dukkha. C'est pas ça, la contrariété. La contrariété, c'est le fait de penser que être heureux, c'est d'être tout le temps, c'est d'espérer qu'on va être tout le temps jeune, tout le temps en bonne santé. Et là, on s'est illusionné, donc on aura une contrariété par rapport à nos illusions. Vous voyez l'idée ? Donc, dukkha, c'est important sur notre chemin. Si on rencontre une contrariété, tant mieux, parce qu'on va avoir les moyens de comprendre comment on s'illusionne. C'est ça qui est important pour un pratiquant bouddhiste, c'est de comprendre qu'il ne faut pas rejeter la contrariété. Bien sûr, notre aspiration, c'est de nous libérer de la souffrance, mais quand on dit libérer de la souffrance, c'est pas se débarrasser de la contrariété, c'est de rentrer en contact avec cette contrariété pour la comprendre. Et si on la comprend, on va pouvoir s'en libérer. On va arrêter de se faire des plans sur la comète. On va voir les choses de manière plus lucide, plus directe, et on va arrêter de tomber dans des pièges, dans des petites tricheries. J'essaye d'être plus malin, et puis je vais et puis finalement, en fait, on se voile la face. Et voilà, je prends beaucoup de précautions, en fait, avant d'introduire l'entraînement de l'esprit, parce que vous allez voir que quand on dit que la souffrance peut être utile, il y a vachement moyen de comment dire? Voilà, ça peut donner lieu à beaucoup de confusion. Surtout pour les bouddhistes. Les bouddhistes, je disais à un ami dernièrement au centre à Bodhicharya, je rencontre plein de gens qui font des burn-out. Je disais, c'est impressionnant. Avant, il y en avait un, deux, c'était exceptionnel. Puis depuis quelques temps, je rencontre énormément de gens qui font des. Voilà, qui viennent nous voir parce qu'ils font des burn-out. Et vraiment, moi, je tombe des nues parce que des gens que j'ai connus. Mais j'aurais jamais imaginé que cette personne-là, si compétente, si les pieds sur terre, vraiment des gens sur qui on peut compter, des gens vraiment qui sont solides, et tout d'un coup qui nous annoncent voilà, qu'on ne voit plus pendant un temps, puis un jour on les revoit, on ne les reconnaît pas, et puis voilà, et à un moment donné où voilà, elles ont touché le fond. Et il me disait un truc très très intéressant que je trouve profondément juste. Les bouddhistes, on a une propension à devenir des gens qui font des burn-out. Parce que parfois, on comprend mal les enseignements. Parce que le bouddhiste, en fait, là où il comprend mal l'enseignement, c'est que un bouddhiste, c'est quelqu'un qui fait de son mieux. Et en plus, dans le fait de faire ce mieux, on inclut cette notion de compassion, c'est-à-dire on prend soin de l'autre. Et là où on comprend mal les choses, c'est que dans l'entraînement de l'esprit, il s'agit d'abord, avant de prendre soin de l'autre, d'abord de se prendre en charge. Si on ne sait pas être heureux, si on ne découvre pas cet endroit en nous qui peut être libre, qui peut être heureux, qui peut être en paix malgré les circonstances, comment on peut espérer avoir un regard lucide sur ce que traverse l'autre et lui apporter quelque chose d'approprié à ce qu'il rencontre. Sinon, il y a cette notion de... Dans l'entraînement de l'esprit, l'idée, c'est pas... vous allez voir, on va beaucoup insister sur la compassion. Les autres, dans l'entraînement de l'esprit, vont être au cœur de la préoccupation du pratiquant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, avant d'être utile, il faut apprendre à se prendre en charge. Apprendre à prendre en charge cette souffrance et à la gérer. Et parce que si on ne comprend pas, bah effectivement, on va rentrer dans une sorte d'humanitaire, dans une sorte de sacrifice et dans une notion de victime. Les autres d'abord, moi ça... Non, c'est pas important. D'abord, les autres. Sacrifice. Et si on est dans un rôle de victime, on passe à côté de la plaque. On n'est plus dans l'entraînement de l'esprit. Celui qui se consacre aux autres, du point de vue bouddhiste, n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui a une vue très large. C'est quelqu'un qui a une vue tellement large, qui a tellement de perspectives différentes, qu'il est capable de... on va dire de grappiller sur sa zone de confort personnel, parce qu'il comprend qu'en grappillant, en fait, il a une perspective plus vaste. Ça va permettre à l'autre d'être heureux. Alors là, c'est le deuxième aspect fondamental de l'entraînement de l'esprit. C'est que, donc, je vous dis, dans l'entraînement de l'esprit, on place l'autre au cœur de nos préoccupations. L'idée, c'est de comprendre que plus je me consacre au bonheur de l'autre, plus je prends en considération les besoins de l'autre et la souffrance de l'autre, plus je suis le premier servi. Je suis le premier bénéficiaire de ça. L'idée, c'est pas les autres et moi, je m'en occupe pas. L'idée, c'est de déplacer l'attention qui est focalisée sur le moi, mes problèmes, vers le nous. Pas vers le vous, vers le nous. C'est-à-dire, on s'intègre là-dedans. Comprendre que l'autre me concerne, parce que si je prends en considération le bonheur de l'autre, je prends en considération mon propre bonheur. Et pour faire cette démarche-là, il ne s'agit pas d'adhérer à une philosophie intéressante, un système de pensée, ouais c'est intéressant, j'aime bien, j'adhère, etc. On ne nous demande pas d'adhérer. On nous demande de comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est ça le secret du bonheur. Le grand maître Shantideva disait: maintenant que je comprends que tous mes malheurs et mes peines viennent du fait de me chérir le moi. Et maintenant que je comprends que tous mes bonheurs et ma joie viennent du fait de chérir les autres, je vais pratiquer le grand secret, m'échanger contre autrui. Le grand secret. Pourquoi le grand secret? Parce que c'est totalement... C'est pas du tout instinctif. Enfin, c'est pas du tout dans nos habitudes, c'est pas du tout notre tendance. Notre tendance, c'est... pour être heureux, je m'occupe de moi. Moi d'abord, les autres, on verra, quoi. Ou alors on s'en fiche. Et moi d'abord, je mérite le top. Je veux le top pour moi-même. Et ça, du point de vue, c'est aucun problème. C'est tout à fait légitime d'aspirer au bonheur pour soi, d'espérer le meilleur pour soi. Mais c'est de comprendre que tout le monde veut le top pour soi. Tout le monde aspire au meilleur et tout le monde cherche à se préserver de la souffrance. Mais comme on partage, on est tous interreliés, on dépend tous les uns des autres pour être heureux. Ne serait-ce que on partage la même, le même environnement. On partage cette planète, donc on partage le même atmosphère, on partage le même, l'air qu'on respire, l'oxygène, les mêmes ressources. Et on comprend très bien que s'il y en a un dans l'eau qui décide « moi je veux le meilleur, je veux tout, et puis les autres je m'en fiche », il y en a un qui va être content, mais les autres ils vont pas être contents. Il y en a un qui va piller toutes les ressources de la planète, et puis il y en a d'autres qui vont crever à la faim. Qui vont crever de faim, et ces gens-là, ils vont pas être... ils vont pas être contents. Et dans ces... Oui, bien sûr, ouais. Ça va mieux, Claire? L'interdépendance, c'est pas du tout quelque chose qui est, que je trouve propre au bouddhisme. C'est quelque chose que tout le monde peut observer. Le bouddhiste n'a pas le copyright de cette observation-là, du fait qu'on est tous interreliés. S'il y en a un qui veut tout et qui s'accapare tout, il y en a qui vont avoir rien. Et puis ceux qui vont avoir rien, ils vont être jaloux. Et puis du coup, ça va développer de la méfiance, de l'animosité, de la paranoïa, de la violence, de la colère, etc. Toutes ces émotions négatives, naturellement, on va se faire la guerre. Et celui qui s'est tout accaparé, il va devoir faire face à ça, à l'adversité. Oui.
Le Dalai Lama, il n'y a pas longtemps, a parlé de l'égoïsme intelligent.
Ouais.
C'est de ça dont il s'agit.
Et ouais, exactement. C'est exactement cette logique-là. C'est-à-dire, tant qu'à être... Voilà, il faisait un peu une boutade. Il disait, tant qu'à être égoïste, dans le sens où l'égoïsme... c'est-à-dire, on se prend en compte. C'est légitime d'aspirer au bonheur. Mais faisons-le de manière efficace. Il n'y a pas de méchants dans le bouddhisme. Il n'y a pas des vilains. Il y a des gens... On cherche tous le bonheur. Et c'est pas une histoire de... Voilà, je prends en compte les autres. Je me préoccupe pas de moi. Moi, je suis bon, etc. Derrière ça, en fait, il y a quelque chose de suspect du point de vue bouddhiste. Dans le bouddhisme, on cherche pas à prendre en charge les autres parce que pour devenir quelqu'un de bien, pour aller au paradis, voilà, pour gagner des points, voilà, par devoir moral, des choses comme ça. L'éthique bouddhiste, c'est... on fait ça parce que c'est une histoire d'efficacité. S'il cherche le bonheur, il faut le faire de manière efficace, en observant. C'est-à-dire qu'on n'adhère pas à une croyance, on n'adhère pas à un système de pensée, on adhère à une méthode, parce qu'on comprend, on observe que si je cherche le bonheur, le vrai bonheur, je ne peux pas le trouver sans prendre en considération tous ceux qui me sont liés, tous ceux qui participent à mon bonheur. Pour en être là aujourd'hui, on était totalement vulnérable. On n'avait aucun outil, rien. Il a fallu que quelqu'un nous prenne totalement en charge, de A à Z. Nous nourrisse, nous apporte un amour inconditionnel. Nos parents, nos proches, nos amis, nos instructeurs, tout ce qui fait que bah, aujourd'hui on a même la capacité de communiquer, de parler correctement, de rentrer en relation avec l'autre, notre façon de penser, tout ça on le doit à quelqu'un, on le doit à... on hérite de quelque chose, il y a très peu de choses qu'on ait fait par nous-mêmes. Si aujourd'hui on pense comme ça, bah, quelque part on a été influencé par quelqu'un dans notre, voilà, dans notre vie qui, voilà, ça nous a parlé, ça nous a inspiré, et puis on adhère à cette façon de penser, ça devient la nôtre. Mais la nôtre, c'est la sienne aussi. Dans notre façon de passer, bah, y a la façon de penser de nos amis, ça nous accompagne. Même si ces amis sont partis, même s'ils sont morts, même s'ils sont décédés, bah, ils nous accompagnent, ils vivent encore à travers cette façon de passer, cette façon de parler. C'est ça, comprendre l'interdépendance, c'est le comprendre que on dépend tous les uns des autres. Et du coup, si on réalise vraiment ça, le fruit de comprendre l'interdépendance, c'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est un, on va parler d'un facteur mental dans le bouddhisme. Voilà, il y a des causes, il y a des conditions. Si on médite sur le fait de cette interdépendance, de tout ce qu'on doit aux autres, bah, ce qui va s'élever naturellement dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Et c'est un état d'esprit qui est extrêmement bénéfique, qui est source de mérite infini, parce que dans la gratitude, on est sans arrêt satisfait. Parce que, quelque part, toutes les fleurs qui poussent, on est capable de les cueillir. On est capable de se réjouir de tout ce qu'on a. Et en même temps, on est capable de se réjouir de tout ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, souvent, on prend conscience de tous nos privilèges qu'au moment où ils disparaissent. Quand, par exemple, on se lève le matin et qu'on a mal nulle part, il n'y a que le jour où on se réveille avec des boules d'angoisse ou mal au ventre ou la nausée, etc. Et puis ça dure plusieurs jours. Et on se dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien quand je me levais et puis j'avais rien. J'étais en bonne santé, etc. » Mais ce genre de choses, en fait, on ne le prend pas en considération. Quand c'est là, on considère comme acquis. C'est indu, c'est normal, etc. Et on oublie de se réjouir de ça. On oublie de se réjouir d'avoir de l'appétit. Quand il nous arrive une tuile, et puis qu'on est angoissé, qu'on perd l'appétit, on n'arrive plus à avaler quoi que ce soit, et puis on se rend compte, etc. Et ben on se souvient, qu'est-ce que c'était bon de pouvoir savourer un repas, de pouvoir en profiter. Rien que le fait, voilà, de pouvoir manger, et puis d'être content. Il y a le repas qui arrive, on se réjouit, etc. On va manger, etc. Ça, en profiter, mais c'est pas un dû, ça peut disparaître. Il suffit d'une circonstance, il suffit d'une angoisse, d'un problème, et on n'arrive plus à s'alimenter. Je pense que ça nous est tous arrivé, quoi. On n'a plus d'appétit. On n'endort plus la nuit, ça aussi. Le fait de dormir, moi je rencontre énormément de gens qui ont des problèmes de sommeil. C'est un truc maintenant qui est devenu courant. Les gens qui dorment bien, les gens à qui je dis bien dormi, qui me répondent oui, mais ça devient presque... Si on a la chance d'arriver à s'endormir facilement, puis de faire des nuits vraiment reposantes, et puis de... faut se réjouir de ça, c'est pas rien. Peut-être que demain c'est terminé. Toutes ces choses-là, il faut apprendre à s'en réjouir. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, c'est des choses qui participent de notre bonheur. Plutôt de focaliser sur ce qu'on a, il y a aussi l'idée de la démarche bouddhiste, avant de prendre en compte les autres, c'est de se considérer comme ayant de la chance. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de choses. Si, ne serait-ce que parce que je suis en bonne santé, parce que je dors la nuit, parce que je mange à ma faim, parce que j'ai de l'appétit, parce que j'ai pas à me préoccuper de ce qu'il va y avoir dans mon frigo, parce que j'ai pas à me préoccuper de où est-ce que je vais dormir ce soir. Ça, c'est des choses, c'est un privilège en Occident. On n'a pas à se préoccuper de ça, c'est pas nos problèmes, ça. On sait parfaitement où est-ce qu'on va dormir ce soir. Notre frigo est toujours plein. Pardon ?
Pas toi tout à l'heure.
Ouais, moi j'ai eu un instant de... Mais heureusement, je me réjouis. Je sais. Là j'ai eu un instant d'angoisse. Et puis Brigitte m'a proposé sans toi ce soir et là je me réjouis. Je peux m'estimer heureux. Tout ça c'est pas anodin. C'est vraiment... C'est à considérer comme quelque chose qui n'est pas anodin, qui est précieux. qui sont des circonstances précieuses parce qu'elles sont d'abord privilégiées, c'est-à-dire ça n'arrive pas à tout le monde, et précieuses parce que si on n'en profite pas maintenant, c'est pas le jour où ça va disparaître qu'on va pouvoir en profiter. Le jour où on va disparaître, ça sera juste une tuile de plus. D'ailleurs, j'avais mes problèmes, mais j'avais pas celui-là de pas manger à ma faim, de pas avoir d'appétit. Ben voilà, ça sera un problème de plus. Plus je prends conscience de ce que j'ai, plus j'ai de la gratitude, et plus c'est un cercle vertueux, la gratitude. C'est-à-dire, plus je prends l'habitude de prendre en conscience qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai, plus j'ai matière à le voir dans la vie de tous les jours. Et ça va se nicher dans les trucs les plus... les détails de la vie. Je suis même capable d'apprécier une douche le matin. Voilà, voilà, on va parler des plaisirs simples, d'être... Ah ben voilà, profiter de ma tasse de thé, c'est-à-dire même ça, avoir suffisamment d'espace. J'ai mis de l'énergie, je vais me préparer un bon petit déj. Et qu'est-ce que c'est, comment dire, c'est tellement dommage de s'être aménagé ce moment de petit déjeuner. Et au moment où je le prends, bah, je suis ailleurs. J'ai raté le coche. Au moment où je prends mon petit déjeuner, bah, j'ai pas pu savourer ma tasse de thé parce que je pensais à autre chose.
On est pas en instant présent. Ouais.
C'est, la gratitude, c'est aussi un... Est-ce que c'est du coup un outil aussi pour vivre l'instant présent et voire même un remède à l'attachement, enfin,
Alors le remède à l'attachement, c'est plutôt de méditer sur l'impermanence. C'est de voir... Mais effectivement... Quand on a de la gratitude, c'est qu'on est capable de savourer quelque chose. Si on est capable de savourer quelque chose, c'est qu'on considère que cette chose, elle n'est pas acquise. Elle n'est pas indue. Je pourrais ne pas en profiter. Elle peut disparaître. Et donc, du coup, ça va d'autant plus nous permettre de nous sentir heureux de ça, de nous réjouir de ça. Et si on se sent heureux, si on se sent riche de quelque chose, on va pouvoir étendre ce bonheur, on va pouvoir l'élargir. C'est vraiment la base. Donc c'est pour ça que l'entraînement de l'esprit commence par les quatre idées fondamentales. Je ne vais pas développer ce soir. Juste cette première idée fondamentale qu'on appelle la précieuse existence humaine. La précieuse existence humaine, vous allez voir dans le texte, il y a plein de façons de... justement des points où on va pointer du doigt. Regardez ce que vous avez. Focalisez-vous sur ce que vous avez. Bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas. Bien sûr, on a des problèmes, etc. Mais en tout cas, portez votre attention sur de quoi vous pouvez-vous vous réjouir. Qu'est-ce que vous avez reçu? Ce que vous avez, à qui le devez-vous? Pour qu'on puisse se sentir riche de quelque chose. Pour que ce soit une conviction. Une conviction qui va nous amener à comprendre qu'on est tous interdépendants. Que le bonheur de l'autre me concerne. Que le bonheur de l'autre, c'est moi. Dans le sens où si je suis relié, l'autre, c'est moi. Donc si je me prends en considération l'autre, je me prends en considération. C'est complètement lié. Si je m'occupe que de mon propre bonheur et que je ne prends pas l'autre en considération, au bout d'un moment, ça va faire défaut. Bon, il y a quelque chose qui va mal se passer. On est dans une vision étroite, une vision qui est erronée. Si elle est droite, bah, elle ne sera pas efficace. C'est pas qu'on sera quelqu'un de mauvais, c'est juste que cette vue n'a pas le pouvoir de nous emmener vers l'éveil. Voilà, l'éveil c'est ça, hein, c'est une histoire d'efficacité. Il n'y a pas de mauvais ou de bonne personne. Il y a une façon efficace d'aller vers le bonheur et il y a une façon qui n'est pas efficace à nous emmener vers le bonheur. Qui n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux. Ça peut éventuellement nous apporter des satisfactions temporaires, des petits bonheurs, des petits bonheurs, des compensations, mais ça n'a pas le pouvoir de nous libérer de la souffrance et de nous emmener vers l'éveil. Alors voilà, donc ce sera les deux aspects de l'entraînement de l'esprit, le fait de changer notre regard par rapport à la contrariété et de placer l'autre au cœur de nos préoccupations. Pour comprendre que, c'est ça le grand secret. On veut être heureux. Je vais quand même vous parler de l'historique de cet enseignement. Donc l'entraînement de l'esprit, c'est un enseignement qui nous vient d'un maître très important qui s'appelle Atisha. Atisha Dipankara, Atisha. Atisha, c'est un maître très célèbre, donc un maître encore de la génération indienne. Donc le bouddhisme est né en Inde, Bouddha est né en Inde, il enseignait en Inde. Et Atisha donc faisait partie de ces maîtres indiens, donc disciples pas directs, voilà. C'est un maître du 10 ou 11e siècle. Atisha, il a un peu le même parcours que le Bouddha, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est issu d'une famille aisée, voilà, contexte très privilégié, famille aisée, etc. Et puis un jour, il décide de quitter ses privilèges pour se lancer dans quête spirituelle. Quelqu'un très brillant, voilà, un étudiant très brillant, beaucoup de capacités. Et un jour, il fait un pèlerinage à Bodh Gaya. Donc Bodh Gaya, c'est aujourd'hui un lieu de pèlerinage où on dit que le Bouddha aurait atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Bodh Gaya, donc c'est une région au nord-est de l'Inde qui accueille des milliers de pèlerins chaque année. Il fait ce pèlerinage et lors de ce pèlerinage, il a une vision où dans cette vision, on lui dit d'aller rencontrer un certain Serlingpa. À Sumatra, donc en Indonésie. Donc vous vous imaginez que faire le voyage, à cette époque, faire le voyage d'Inde en Indonésie, c'est pas de la tarte. Mais il est tellement frappé par cette vision, elle est tellement extraordinaire qu'il décide de la suivre. Il décide de la prendre au sérieux et puis il suit cette vision-là et effectivement il rencontre ce Serlingpa qui lui transmet l'essence de l'entraînement de l'esprit, l'essence du Lojong. Et il le pratique, il étudie auprès de Serlingpa pendant 12 ans. Et quand il revient, il le transmet, mais pendant très longtemps, l'entraînement de l'esprit reste un enseignement peu connu. Il le transmet vraiment à disciples très sélects, très ciblés. Juste de quoi de transmettre, qu'elle passe la prochaine génération. Mais ça reste un enseignement peu connu. Il le transmet à Landri Tangpa. Landri Tangpa, pareil, il écrit un texte par rapport à ça, il en fait un texte qui s'appelle Les 8 stances de l'entraînement de l'esprit, que vous connaissez peut-être. Donc c'est le premier texte issu de cet enseignement-là, très court aussi. Mais pareil, il le diffuse pas très largement.
Mais c'était caché
avant,
c'était secret.
Oui, voilà, ouais, c'est pas que tant ça, que c'était secret, mais c'est tellement particulier. Il estimait que les gens dans son entourage ne pouvaient pas forcément le comprendre. Donc voilà, il l'enseignait que à des personnes qui étaient capables de l'intégrer et de le pratiquer et puis surtout de le réaliser parce que c'est ça qui est important. Et un jour, il y a un étudiant qui s'appelle Shekawa qui par hasard tombe sur une phrase de ce texte qui dit « Donne la victoire et le profit aux autres et prends sur toi la défaite et la perte ». Et c'est vraiment, il est très interpellé par cette strophe, qu'il trouve assez extraordinaire dans son contenu, c'est-à-dire très inhabituel. Et il décide de se mettre en quête de qui a écrit ce texte, et on lui parle de Landri Tangpa, mais entre-temps, Landri Tangpa est décédé. Heureusement, il l'a transmis à son disciple, Sharawa. Donc il a l'occasion de rencontrer Sharawa, qui lui dit, bah voilà, si tu souhaites réaliser l'éveil, c'est-à-dire le plein éveil du Bouddha, à la fois la libération de la souffrance et les capacités d'aider les êtres, tu ne peux pas y arriver sans méditer sur ce texte, sur ces instructions. Et donc il décide de le mettre en pratique et il le médite, il le pratique pendant 10 ans. Et Shekawa, en fait, son lieu de retraite est à côté d'une léproserie. Donc voilà, il est en contact avec beaucoup de lépreux qui viennent le voir, qui demandent des instructions et puis il se rend compte que ça fonctionne, enfin voilà, ça donne des résultats, les gens mettent en pratique cet enseignement, puis parfois il y a même des résultats miraculeux, mais là encore il ne se décide pas à diffuser le texte plus largement. Ce qu'il décide, c'est que dans son entourage il a un frère qui est mauvais, c'est quelqu'un qui est vicieux, qui a un mauvais caractère, enfin voilà. Et pourtant, au fil des mois et des années, il voit le caractère de son frère nettement s'améliorer, s'adoucir. Il va de mieux en mieux. Et un jour, il le surprend en fait à écouter à la tente, près de la tente où il est. Et il comprend qu'en fait, voilà, il écoute les enseignements en cachette. Et c'est ça qu'il décide à écrire, cet enseignement donc, qui est destiné à être diffusé plus largement, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Voilà, il structure cet enseignement en 7 points qu'on va voir cette année. Donc, qui est très concis, mais qui dit tout. Il y a tout l'enseignement du Bouddha là-dedans. Moi, je l'ai reçu de Rinpo Rinpoche, cette transmission, et de Lama Tsultrim. Rinpo Rinpoche l'a lui-même reçu du 16e Karmapa et de Dilgo Khyentse Rinpoche. Et ces deux maîtres ont un lien tout à fait clair avec la lignée du Lojong. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour nous, dans la transmission, c'est très important que cet enseignement, on considère que cet enseignement est un héritage direct de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. C'est l'héritage, c'est l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, et on peut quelque part le valider par le fait qu'on est capable de remonter, voilà, de mettre en disciple jusqu'au Bouddha, qu'il a transmis à son disciple, qu'il a transmis à Tisha, qu'il a transmis à voilà, Shekawa. Voilà, c'est ce qui valide l'enseignement. Voilà, c'est petit apéro, petite mise en bouche. Mais voilà, je vous invite avant qu'on aborde cet entraînement de l'esprit, surtout par rapport à cette phrase qui peut vachement interloquer. La victoire pour les autres, la perte pour moi.
Ah, c'est ça,
si c'est mal compris.
Accepter la
voilà, on se met, quelque part, on se met dans une situation où... il ne s'agit pas de devenir une victime.
Non.
Il ne s'agit pas de se sacrifier. Ce qui va nous permettre effectivement de renoncer à une partie de notre confort, à une partie de notre sécurité, ce sera une vision plus vaste. Si on comprend que, ok, je suis prêt à grappiller parce que, pas parce qu'on me l'a dit de le faire, pas parce que je vais être un mec gentil, ouais, voilà, dans une compréhension peut-être mauvaise, la vision judéo-chrétienne, parfois on peut avoir une compréhension mauvaise, c'est-à-dire, voilà, je me sacrifie pour les autres. Il n'y a pas cette notion-là, il n'y a pas cette notion de sacrifice, parce que dans la notion de je renonce peut-être à un certain voilà, territoire, parce que j'en comprends la portée, j'en comprends les bienfaits. Et le premier servi, ce sera moi. Le pratiquant du Lojong n'est pas une victime. Jamais. Il ne subit pas la souffrance.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle la voie du milieu, typiquement? Enfin, c'est une des recommandations, la voie du
non.
milieu.
Non, non. C'est pas, la voie du milieu, en fait, c'est... quand on parle de voie du milieu... Dans le bouddhisme, on va parler d'être une voie qui est libre des extrêmes, qu'on appelle du samsara et du nirvana. C'est pas genre un compromis entre les deux. Voie du milieu, le bouddhiste, voilà, ni pour ni contre, entre les deux. Voilà, un compromis, juste entre les deux. Ou mitigé, ni chaud ni froid, mitigé. Non, en fait, le bouddhiste, c'est celui qui est libre des extrêmes, qui consisterait en fait on cherche à se libérer du samsara, c'est une chose, on cherche à se libérer de la souffrance, on renonce au samsara, on renonce, quand on dit on renonce au samsara, le samsara c'est pas le monde dans lequel on vit, bien que bah voilà on puisse considérer qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, que la société ceci, la société cela, etc. Mais le monde, il est tel qu'il est. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, et de tout temps, ça a été comme ça. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Mais le samsara, ce que ça désigne, c'est pas le monde dans lequel on vit, c'est la confusion de notre esprit. et cette confusion, ce malentendu sur ce que sont les choses, est cause de souffrance. Et donc on veut renoncer au samsara, on renonce à ce qui est cause de souffrance. Mais on renonce aussi à une chose dans cette voie-là qu'on appelle le grand véhicule, c'est le nirvana, dans le sens un nirvana qui serait perché, c'est-à-dire on renonce au fait à être tranquille, c'est-à-dire se tirer pour trouver un état d'esprit ou des circonstances où voilà, nous on est pépère, un truc, et puis voilà, vaille que vaille. On renonce à ça aussi dans notre démarche. Notre démarche, c'est que l'état de Bouddha, c'est pas un état dans le sens, une sorte de voilà, plénitude, une sorte de béatitude dans lequel on est tranquille et ça, le reste ne nous touche plus, bien que ça peut nous arriver. Si ça nous arrive, considérer que cet état-là n'est pas le bonheur, n'est pas l'éveil. Pour le Bouddha, bah même ça. Le Bouddha, c'est une activité. C'est, quelles que soient les circonstances, je continuerai à agir pour les êtres. Il y aura des états de béatitude, et puis il y aura des états plus mouvementés, mais on est au-delà du samsara, au-delà du nirvana. On considère que le samsara n'est pas l'éveil, mais on considère aussi qu'un nirvana perché, c'est-à-dire un état de béatitude, d'absorption méditative, ou peut-être des expériences sensorielles inouïes de grande bête, qu'on pourrait même avoir par des substances, par la drogue, etc., avoir la conviction que ces états-là, bien que très agréables, ne sont pas l'éveil auquel on aspire. Et on renonce à ça. C'est une façon de présenter cette voie du milieu. Libre des extrêmes du samsara et du nirvana. On appelle la voie médiane. On ne se laisse pas avoir. Souffrance, c'est, voilà, la confusion du samsara n'est pas l'éveil, mais la béatitude du nirvana n'est pas non plus l'éveil. Il faut aller au-delà, plus loin. Le samsara, en fait, c'est de s'imaginer que c'est l'état confus de notre esprit qui nous fait croire que il faut que le bonheur, c'est le plaisir, et donc du coup, ça, notre rapport au plaisir, c'est l'attachement. On cherche à s'attacher au plaisir. S'il y a plaisir, on cherche à le faire durer. Et quand il disparaît, on souffre. Et du coup, de manière inverse, quand on rencontre une situation désagréable, on considère que ça ne devrait pas être comme ça, donc il faut absolument s'en débarrasser, fuir ou détruire. Donc on est sans arrêt entre... notre existence est polarisée entre l'attachement aux situations agréables et l'aversion envers les situations désagréables. Et on tourne en rond. C'est ça qu'on appelle le samsara, le cycle samsarique. C'est une ronde. On dit, on erre. On erre parce que ça tourne en rond, on n'en sort pas de ce cycle-là. Il y aura toujours des situations agréables, donc on s'attache et puis on fuit et on n'en sort pas. C'est un état qui est confus. On ne comprend pas que le bonheur est au-delà de ça. Donc du coup, on mise sur le mauvais cheval. C'est une confusion.
C'est exactement ça que je voulais te demander tout à l'heure quand tu parlais du bonheur. On confond bonheur et plaisir souvent.
C'est ça. On pense que le plaisir, c'est ça le bonheur suprême. Bien que le plaisir... Il n'y a aucun problème. Dans le bouddhisme, on ne renonce pas au plaisir. Il n'y a aucun problème par rapport au plaisir. Par contre, on renonce à penser que le plaisir c'est la conclusion, la finalité de notre voie. C'est essayer de faire en sorte que ce plaisir se maintienne tout le temps. Là, on se voile la face. Le plaisir est un facteur mental. Pour qu'il y ait plaisir, il y a plein de facteurs qui se mettent en place et c'est une expérience. Mais comme c'est une expérience qui est conditionnée, elle est vouée soit à se modifier, soit à disparaître et à laisser place, éventuellement, une autre situation qui sera peut-être moins confortable, etc. Mais aucun problème, parce que situations inconfortables, elles aussi, sont conditionnées. Donc elles ne peuvent pas se maintenir dans l'esprit. Donc on peut se détendre par rapport à tout ça. Plaisir, déplaisir, on peut se détendre. Ça va, ça vient. Il n'y a pas besoin d'être en lutte, il n'y a pas besoin de s'agripper, il n'y a pas besoin de toute cette énergie, toute cette lutte. On peut laisser tomber ça pour avoir un regard plus lucide par rapport à ça, pour pouvoir observer ça. Ça va? ça fait charger hein, comme intro, mais voilà.
c'est vrai que vous ne s'attachez plus, on est, c'est bon, ni au bon ni au mauvais, on reste collé.
Ouais, ouais, il y a une attitude, il y a quelque chose qui se détend.
On sent mieux.
Et au contraire, les gens pensent que quand on pratique le bouddhisme, on devient un peu indifférent, un peu. Mais au contraire, quand on sait que, je vous dis, quand on sait que l'appétit peut partir, on savoure d'autant plus son repas. On peut en jouir à 100%. Quand on sait que c'est précieux, que, ouais.
Là, je parle beaucoup de bouffe, là, en ce moment.
Ah oui, c'est l'heure.
Ouais, en ce moment, j'ai rencontré pas mal de bons cuisiniers, là.
Alus ?
Ouais, alors déjà, j'étais à Nancy hier. J'ai été accueilli par deux personnes. Vraiment, petit repas après le chilling. Petit crumble. Attends, crumble au... mince. Ces bases de branches roses là, rhubarbe, crumble rhubarbe. J'avais pas encore.
Rouge rose. Ah ouais, d'accord.
Si, c'est rose.
Ah là là. Bien comme il faut. Et puis ce soir, chez Marie, tranquille, petit repas aux oignons, gazpacho, petit fromage coupé. Bon, allez, je vais arrêter. mais en fait, ce que j'aime, ça suffit pas un bon repas. Encore faut-il avoir de l'appétit et encore faut-il avoir quelque part l'appétit pour le savourer et vraiment moi pour moi par exemple je me suis rendu compte que quand j'avais le trac ça m'arrive en fait je vais à l'enseignement parfois je traque et qu'est-ce que c'est frustrant quelqu'un qui prépare un super repas et t'as pas faim quoi, enfin, parce que l'estomac est noué, on peut pas en profiter, moi j'aime pas ça. Donc du coup, quand il y a un bon repas et que les conditions sont réunies pour que je le savoure, c'est... Je le vis à 100%. Voilà. Ok, alors je vous propose de faire la dédicace. Donc la dédicace, on n'est pas obligé de le faire de manière formelle avec les mots. Il y a une manière non formelle. C'est de... Souvent, on sonne trois coups de gong. Et on pense aux êtres, en fait. On pense peut-être, ce qui a pu se passer dans notre journée de bénéfique. Ce moment-là qu'on a passé ensemble, si ça a pu faire mûrir des pensées bénéfiques, positives, on le dédie au bien des êtres. Que ça soit profitable pour nous, mais... que ça puisse planter des éclabousser tout le monde. Et l'idée, c'est qu'on accompagne ces prières silencieuses. On accompagne le son du gong. On imagine que ça se répand dans l'espace. Merci.
Merci.
Merci. Merci.